vous écoutez le podcast de l'APM. Aujourd'hui, nous accueillons Maxime de Rostolan, avec qui nous allons parler de la situation environnementale et des pistes qui s'offrent aux entrepreneurs pour renverser la tendance. Maxime est un éco-entrepreneur hyperactif. Il multiplie les tentatives d'avoir un impact fort sur le monde qui l'entoure. Permaculture et maraîchage biologique avec l'association Ferme d'Avenir, lobbying citoyen avec La Bascule, le crowdfunding à fort impact avec Bluebees. Il a publié 4 livres, dont le dernier, En Avant, est sorti il y a 1 an chez Michel Lafon. Salut Maxime.
Bonjour.
Est-ce que j'ai oublié des choses là dans ce parcours presque boulimique hein, autour de l'environnement, de l'impact et de ta trajectoire, toi, de citoyen dans le monde?
Je pense qu'il y a une chose qui a été déterminante dans ma vie, c'est la découverte du biomimétisme, le fait de s'inspirer de la nature et de réaliser que le vivant avait, depuis des milliards d'années, développé des technologies incroyables pour s'adapter et que on serait fort inspiré d'aller piocher dedans plutôt que de continuer notre fuite en avant en exploitant les ressources non renouvelables qui sont sous nos pieds, quoi.
Est-ce que c'est parce qu'il y a un truc qui m'a fait rêver quand même quand j'ai vu ta trajectoire, c'est le tout départ, le point de départ, presque sorti d'école. T'as un parcours ingénieur, biochimiste, hein, c'est ça, ou chimiste en tout cas, et tu pars en tour du monde en camion 2 ans.
Ouais. En fait, moi, mes parents m'ont emmené voyager pas mal quand j'étais jeune. Et quand j'ai intégré une école, mes parents m'ont dit, on t'offre une voiture. Je fais, non, vous n'allez pas m'offrir une voiture. Vous allez m'offrir un combi Volkswagen, plutôt. Un vieux truc à l'ancienne que personne, enfin, voilà. À l'époque, c'était un peu compliqué. Donc, je l'ai depuis 20 ans et je l'avais payé 25 000 francs.
Ah oui.
Et j'ai, pendant mon école, beaucoup voyagé avec pas mal de potes. On est allé en Algérie, à Sarajevo, tour d'Angleterre, tour de Corse, tout ça, beaucoup en France. Et à la fin de mes études que j'ai terminées au Brésil, j'ai décidé de partir plus longtemps avec un plus gros camion. Et donc, on a acheté avec 2 potes un Mercedes et on a monté un projet autour de l'eau. Et donc, on a cherché des partenaires et ça a été mon premier projet entrepreneurial, on va dire, puisque 6 entreprises ont permis de lever 80 000 euros pour voyager pendant 2 ans. Et donc, ça a été mon entrée dans la vie active. C'était une vie active originale pour commencer.
Alors, tu as un profil assez atypique hein, en tant qu'expert APM. Déjà, tu es jeune. Hein, tu fais partie des... Moi, je fais partie des jeunes membres de l'APM. J'ai 40 ans et toi, tu as 40 ans aussi. Jeune expert. Et surtout, complètement hyperactif, multi-serial entrepreneur, slasher presque, comme on dit aujourd'hui, là, c'est qui multiplie en simultané plein de trucs. Où est-ce que tu puisses toute cette fougue-là, toute cette énergie-là pour aller multi-entreprendre depuis tout le temps, en fait?
Je ne sais pas. J'ai au moins un refuge, c'est faire la fête. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment un exutoire et j'y tiens. C'est-à-dire que je continue à... Alors, effectivement, à 40 ans, normalement, on tient un peu moins bien. Je ne sais pas. La constitution fait que je continue à pouvoir enchaîner. Mais ce qui est sûr, c'est que là où je puise en tout cas toute ma détermination, c'est dans la compréhension des enjeux et dans la lucidité sur la situation écologique qui est, disons-le, dramatique. Et il y a clairement urgence. Et je pense que tous ceux qui se lancent sur d'autres sujets, il y a plein de sujets qui sont absolument importants, mais il faut jamais oublier que tous les autres sujets seront balayés d'un revers de main si jamais on ne résout pas cette question du dérèglement climatique et si on ne trouve pas les solutions pour s'y adapter et atténuer ces effets. Donc vraiment, enfin, c'est moi. Bon, après, j'ai des enfants aussi et on a envie de pouvoir leur dire, on a tout essayé.
Là-dessus, est-ce que tu peux aller parce qu'on a on a peu de temps, cette discussion elle est assez courte, mais est-ce que tu peux nous poser le contexte, justement, l'état des lieux de la situation en 1 minute 30 max, tu y arrives?
Ouais, alors bien sûr. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on va essayer de le faire avec un angle agricole parce que on pourrait le décliner dans plein d'autres domaines comme les transports, etc. Mais globalement, l'humanité a extrait en 20 ans, entre 98 et 2018, autant de ressources que l'ensemble des êtres humains avant 98. Donc, on est dans une accélération phénoménale de l'exploitation des ressources et donc de l'augmentation de notre empreinte sur la planète. Et on fait ça au détriment du bon sens. Je m'explique. En 1940, avec une calorie d'énergie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. Donc, on transformait un petit peu de charbon, un petit peu de gaz, un petit peu de pétrole en 2,5 fois plus de nourriture, en tout cas, 2,5 fois plus d'énergie disponible sous forme de nourriture. Donc, 1 donnait 2,4 à l'époque. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. On a donc divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. Et c'est symptomatique, mais c'est un peu une insulte à l'intelligence humaine que d'être 25 fois moins efficace que ses grands-parents. Et surtout, ça fonctionne tant que le baril de pétrole vaut 30 dollars ou 40 dollars. Le jour où il vaudra 200 dollars, on ne saura plus se nourrir. Et ça, c'est dramatique. Il faut absolument se saisir de cette question-là. Et alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce qu'on a divisé par 25 notre efficacité énergétique, mais vous l'imaginez, hein, c'est la mécanisation, c'est les produits chimiques, c'est la mondialisation, c'est les emballages, c'est le régime carné, enfin, etc.
Est-ce que ça inclut les 30%
alors, ça,
de...
Ça, c'est le bonus.
Ça, c'est le bonus, ça, d'accord. C'est, en plus d'être moins, c'est 25 fois moins ouais, efficace, en plus, bonus. On en jette un tiers.
Non, c'est intégré. Quand j'explique, je donne les quatre grandes raisons et je dis, et en bonus, on a tiré les prix de l'alimentation vers le bas depuis 30 ans puisque à l'époque, dans la fin des années 60, 30% du budget des ménages était consacré à l'alimentation et aujourd'hui c'est plutôt 11 à 13%. Donc on a divisé par 3 le prix relatif de l'alimentation. Et donc effectivement, ça choque personne qu'un tiers de ce qui est produit soit jeté sans être consommé. Et c'est vrai que c'est assez dingue. Et puis je finis juste sur l'agriculture, mais si jamais on avait en développant ces nouvelles pratiques industriel fait du bien à l'environnement, à la santé, ça aurait été, voilà, on aurait pu l'admettre, enfin l'accepter. En 60 ans, on a perdu 30 à 50% de la matière organique de nos sols. En 45 ans, on a fait éteindre 60% des animaux sauvages. C'est énorme. Et on a perdu en 30 ans 80% des insectes en France. Et donc, ça fonctionne pas. Je veux dire, on pollue l'eau, il y a des problèmes de santé qui émergent avec ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et si jamais tout ça, on l'observait, mais qu'au moins ça créait de l'emploi, allez, on aurait encore pu le défendre. Mais non, ça crée pas d'emploi puisqu'on a perdu 80% des emplois dans le secteur agricole depuis qu'on a adopté ces techniques. Donc vraiment, il y a un énorme changement de paradigme à mettre en place. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Ferme d'Avenir depuis quelques années et plus récemment avec Communitrice ou d'autres projets. Ouais.
Bon, alors, Ferme d'Avenir, bon, quand on regarde le projet... Tiens, deux mots sur Ferme d'Avenir avant de venir à la suite. Est-ce que tu peux nous poser un peu le principe?
Ben, l'idée, c'est d'essayer de prouver que l'agriculture naturelle pouvait être plus rentable que l'agriculture chimique. Donc, on a monté un comité scientifique. Moi, je me suis formé au maraîchage bio donc en 2012-2013 et j'ai lancé une ferme en Touraine d'un hectare et demi avec un autre maraîcher d'abord. Puis après, on a embauché deux maraîchers. Et on a suivi tous les chiffres, on a monitoré tout ça pour essayer d'estimer la viabilité. Et on a assez vite réalisé que le modèle économique n'était pas structuré pour encourager l'agroécologie, mais qu'il était au contraire tout à fait dimensionné pour l'agriculture industrielle et chimique, et qu'il y avait une distorsion de concurrence qui existait entre l'agriculture chimique et l'agroécologie. Et c'est là que moi, je suis rentré en mode lobbying. Ça veut dire, j'ai dit, bon, bah, alors, quelle est cette distorsion de concurrence? Quels sont les leviers dont on disposerait pour pouvoir résorber ou rétablir cette distorsion de concurrence, rééquilibrer la chose? Et ensuite, j'ai passé beaucoup de temps, dans le cadre des états généraux de l'alimentation, notamment, à essayer de passer des lois, notamment l'une importante sur le paiement pour services écosystémiques. Je le fais très vite, mais en gros, l'agriculture industrielle, elle peut coûter si peu cher et les produits alimentaires industriels coûtent si peu cher parce qu'en fait, ils externalisent leurs coûts et notamment les dégâts qu'ils provoquent. Je parle des algues vertes, je parle des problèmes de santé, je parle des problèmes de pollution de l'eau, etc. Et nous, on dit, c'est pas normal que d'un côté, l'agriculture industrielle et chimique laisse à la charge des pouvoirs publics toutes ces externalités, alors que l'agroécologie prend à sa propre charge, enfin le paysan qui lui-même va planter des arbres et qui va lui-même va passer plus de temps pour protéger ses cultures sans produits chimiques, etc., qu'il prenne à sa charge le surcoût. Et on dit il faut payer il faut rémunérer les agriculteurs pour les services écosystémiques qu'ils rendent. Et ça, c'est quelque chose qui était passé. Donc, un amendement que j'ai réussi à faire passer au bout de 1 an et demi de combat avec les députés. Et malheureusement, il a été retoqué par le Conseil constitutionnel fin 2018. Et j'ai donc décidé de quitter Ferme l'Avenir à ce moment-là en disant, si nos institutions ne sont pas en mesure de préserver l'intérêt général, surtout quand on leur apporte sur un plateau les solutions, eh bien, c'est qu'il faut changer nos institutions. Et c'est donc... dans cette suite logique que j'ai créé la bascule avec des étudiants et des citoyens qui voulaient changer le système.
Alors là, voilà, donc premier épisode, Ferme d'Avenir. Deuxième épisode, la bascule, 2018. Et là, tu dis, vocation de faire émerger une force politique citoyenne apartisane. Pardon.
Très politique, mais apartisane. On est clairement politique parce que je pense que tout est politique. Hein. Faire un acte d'achat, c'est politique, mais on doit rester apartisan, nous, si on veut faire un mouvement fédérateur. Ouais.
Et là, on voit qu'il y a une... Enfin, en tout cas, j'ai lu dans une interview que tu donnais que vous assumez un côté un peu start-up aussi. Et tu fais un peu la rencontre entre cette énergie entrepreneuriale. Ça arrive aussi en même temps que La République En Marche et qu'un peu cette espèce de start-up nation, ces courants-là. Et toi, tu mixes ça avec une culture plus associative que tu as, militante, lobbyiste. Et c'est un peu la rencontre de ces deux univers où là, je grossis trop le trait, là.
Ouais, c'est un peu grossi. Moi, je suis pas. Moi, la seule entreprise que j'ai créée pour l'instant, enfin, là, j'en crée une deuxième en ce moment, mais la seule entreprise que j'avais créée, c'était Bluebees, qui est une plateforme de financement participatif. Et je refusais le terme de startup et j'y préférais le terme de stay long. Ouais. Moi, on est des stay long. On est là pour rester longtemps parce qu'on s'inscrit dans la durée. Et voilà. Et donc, du coup, pour la bascule, le gros mouvement que j'ai fait à ce moment-là n'était pas du tout, n'était pas dans ce sens-là de startup. Et d'ailleurs, c'est après En Marche, hein. Mais c'était plutôt dans la ligne, enfin dans l'esprit de la gouvernance partagée. C'est ouais. Ce qu'on a fait qui a été très intéressant avec la bascule, c'est que en gros j'ai écrit un scénario, enfin j'ai écrit un plan d'une dizaine de pages sur la base duquel j'ai réussi à embarquer plus de 800 étudiants. Donc 100 sont venus habiter sur place. On a récupéré un vieil hôpital désaffecté en Bretagne, à Pontivy. Donc pendant 3 semaines, on est à 100, on a remis le truc en état de d'y habiter, quoi, parce que ça servait de zone d'entraînement pour le raid, donc le truc qui était français quand on est arrivé. Emmaüs nous a envoyé des dizaines de camions de matériel, de lits, de canapés, de tables, de chaises qui partaient à la décharge. Et donc du coup, on a installé ce truc-là pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, on lance vraiment la bascule. Et donc là, je fais un discours de 10 minutes. Et je laisse la main à l'Université du Noux, qui est une association qui accompagne les organisations dans la mise en place de leur gouvernance partagée et de l'intelligence collective au quotidien. Et très, donc, moi, ça a duré 10 minutes, ma manière de diriger la bascule. Et c'est ça qui a été très intéressant. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. J'ai depuis beaucoup parlé avec des patrons, notamment à l'APM, qui tentent de mettre en place l'entreprise libérée, l'holacratie. Pour certains, ils y vont petit à petit, progressivement, et jusque-là, tout va bien. Pour d'autres, ils sont allés trop loin et ils en reviennent. Okay. Et c'est super intéressant. En tout cas, moi, j'ai vécu ça de l'intérieur. Et c'est pas hyper simple pour un entrepreneur hyperactif et habitué à avancer, quoi, que de mettre en question à chaque fois l'ensemble de la stratégie et qu'elle soit débattue à 100 personnes. C'est pas évident, mais y a du bien à prendre.
Et la bascule, ça en est où alors aujourd'hui? Ça existe encore?
Ouais, bien sûr. La bascule, ils se sont transformés en archipel. Et donc, il y a Dordogne bascule, il y a Paris bascule, Bordeaux bascule. Ils ont récupéré un couvent en Bretagne. Donc, on nous a donné à l'association, on a donné un couvent. Donc, on est propriétaire d'un couvent avec 1 hectare de terre. Il y a 28 chambres. Et on a récupéré une caserne à Joigny, en Bourgogne, avec plus de 80 chambres. Et donc là, ils sont aussi en train de... Donc, ça s'appelle la Casbah. Caserne bascule. Et donc, beaucoup de jeunes, il y a encore, à mon avis, une centaine de personnes et il y a aussi, évidemment, Fertile, qui est une des branches de la bascule et qui font des formations à la posture de coopération et voilà, à la coopération.
Et,
voilà.
Ok. Quel est le lien que tu fais, toi, avec le monde de l'entreprise? Justement, tu l'as on le touche du doigt, là. Pour quelle raison tu viens maintenant à l'APM partager, alors déjà expliquer, donner ton point de vue, toi, sur l'état du monde actuel et l'urgence dans laquelle il faut intervenir, poser un peu cette vue systémique que tu as. Et pour quelle raison tu viens en contact de ces chefs d'entreprise? Qu'est-ce que tu essayes d'aller leur soit provoquer comme réaction, soit même toi, alors, te nourrir? Quelles sont les motivations derrière?
Alors déjà, moi, j'ai toujours été en lien avec le monde de l'entreprise. Mon premier boulot, on n'en a pas parlé, mais à l'issue de mon tour du monde, mon premier boulot, ça a été de créer des outils pédagogiques sur le développement durable. C'était dans le cadre d'une entreprise, hein, la maison des rôles. Et pour développer cette collection, été voir énormément de patrons, de directeurs de développement durable, de directeurs de la com, et essayer pour trouver des partenaires, hein, ceux qui finançaient. Et donc, depuis toujours, je suis en lien avec ce monde de l'entreprise. Et c'est justement une des particularités que j'ai, c'est que j'arrive à parler aussi bien à des militants radicaux d'extrême gauche et patrons du CAC 40 en essayant de trouver faire de la diplomatie avec ces gens-là pour essayer de les amener ensemble vers cette ligne de crête qui est nécessaire et qui est d'essayer de changer de paradigme. Et l'APM, on avait reçu l'APM en 2015 ou 2016, si je ne m'abuse, à la ferme, et j'avais vraiment apprécié le format, c'est-à-dire avoir une vingtaine de gens, par club, je trouve que c'est un bon nombre. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est se faire challenger. Ça veut dire que moi, je parle toujours à des convaincus. Toutes les conférences que je fais, c'est dans des endroits où ils ont demandé que j'intervienne. Et donc, je suis devant un public converti et il n'y a pas grand-chose à faire et pour les emmener et les embarquer. En revanche, je trouve que aller parler avec des gens qui n'y croient pas trop, qui ne sont pas impliqués plus que ça, etc., c'est important. Et si, en plus, ces gens sont des gens bien câblés, bien connectés, donc du coup, qui vont aller chercher des... la première fois que je suis ressorti d'une expertise APM, où je donnais une expertise, je suis sorti en disant à ma femme, putain, mais eux, on la leur fait pas, quoi. Enfin, ils vont chercher la petite bête, il faut être solide sur ses appuis, il faut renforcer son argumentaire, et c'est super parce que ça me fait grandir, quoi. Ça fait évoluer, ça aide à muscler le discours, et je trouve ça génial. Par ailleurs, c'est la vraie vie. C'est-à-dire que moi, je suis dans un autre monde, quoi. Je suis dans un monde de militants. On est les 0,5%. Enfin, je mange pas de viande, je prends pas l'avion et mes potes mangent pas de viande et prennent pas l'avion. Donc, on reste dans des petits mondes fermés et être face à des gens qui peuvent. Alors, j'ai fait 5-6 interventions dans les clubs APM et j'ai rencontré des patrons d'entreprises tellement différentes, mais tellement, dans le réel, quoi. Enfin, vendre des camions, vendre des pizzas, vendre, faire de la compta, gérer des serveurs informatiques. J'ai rencontré des gens super. Et ce que j'adore, moi, ce que j'aime, c'est l'humain et comprendre qu'un mec peut d'un côté avoir ses obligations de rentabilité ou de chiffre d'affaires pour pouvoir payer ses salariés, et de l'autre côté qu'il se pose des questions parce qu'il a eu un petit enfant, il a eu une fille, et que du coup il se dit, mais est-ce que notre monde est aussi pour ça, et essayer de l'accompagner dans ce chemin complexe qui est trouvé les consensus, c'est super.
Et alors, dans quelle mesure ça te rajoute encore de la complexité, toi, dans tes convictions? La remarque que je me faisais en préparant tout ça, c'est que tu prends conscience, tu l'expliques bien, que tout ça, c'est systémique et global. Et que toi, ton action, elle est au niveau de toi, l'individu, citoyen, quoi. Souvent l'image du colibri et tout. Et là, quand tu te retrouves en plus en empathie vis-à-vis du système que tu combats tous les jours, parce que finalement, ce que tu disais, les gens qui fabriquent des camions, qui gagnent leur vie en et puis qui ont une réalité quotidienne de chef d'entreprise, tu te mets en empathie avec eux, ça te donne aussi un autre visage, un autre regard sur ton combat. Ça fait bouger les choses un peu dans ton militantisme et dans ton action.
Ouais, alors juste, je vais reprendre un petit peu parce que je vais corriger un petit peu. Je suis pas sur les petits pas et sur l'individu. Là aujourd'hui, ce qu'on est en train de monter, la Communitrise, c'est des pépinières participatives. En fait, il faut faire au moins fois 20 sur ce qu'on fait aujourd'hui en plantation d'arbres. Et donc, ça fait un an et demi que je suis aux prises avec l'État, hein, avec Macron lui-même, avec De Normandie en direct aussi. Et j'essaye de faire des plans à plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Donc, je crois pas vraiment aux petits pas. Et justement, c'est ce qui me permet de rentrer en empathie avec les gens. C'est-à-dire que souvent les gens ils disent ouais, mais moi ma côte de bœuf j'aime bien, et puis quand même moi j'ai besoin d'avoir 2-3 bagnoles, et voilà. Et en fait, je leur dis, finalement, si jamais t'arrêtais de bouffer de la viande, ça changerait pas la face du monde. Ce serait important que tu arrives à le faire et à le décider plutôt qu'à le subir. Mais dans quelques temps, de toute manière, tu pourras plus manger de viande. On le sait. Et de toute manière, dans quelques temps, on est en train de le voir en Angleterre en ce moment, de toute manière, dans quelques temps, le pétrole sera tellement cher que avoir 3 bagnoles, ça fera aucun sens. Et donc, je rentre en empathie parce que je comprends qu'ils sont dans leurs contraintes à eux. Et je réussis à ne pas les culpabiliser, je pense, en leur rappelant justement que les petits pas ne sont pas le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire, c'est vraiment la politique, c'est vraiment ce que font les entreprises du CAC 40. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que ça change? En revanche, ça change que plus j'y vais, enfin plus je suis au contact, plus j'aime l'humain et plus je comprends que on peut pas laisser notre civilisation s'éteindre, et que dans l'échange, dans le débat, dans l'argumentation, il y a toujours moyen de faire évoluer les gens, moi d'un côté, mais eux aussi. Et en l'occurrence, dans une expertise APM, on part du principe que l'expert vient sur un sujet qu'il connaît, et en l'occurrence le climat, la biodiv ou l'entrepreneuriat impact, je connais, et donc c'est plutôt moi qui les amène un petit peu à
se questionner,
à changer. Moi, ils me font grandir. Ils musclent mon discours. Mais globalement, ma ligne, c'est pas eux qui vont me faire changer. C'est les scientifiques. Enfin, aujourd'hui, c'est les scientifiques qui parlent. C'est les conditions extérieures qu'on observe. Et donc, ce qui m'intéresse énormément, c'est de voir comment des chefs d'entreprise peuvent intégrer dans dans la gestion de leur activité, des notions relatives à la préservation de l'environnement. Et on y arrive généralement, puisqu'à chaque fois on fait des exercices, des ateliers, des codev ensemble pour essayer d'introduire un peu ces notions dans leur quotidien. Et en fait, ils demandent pas mieux, parce que c'est rare, franchement, les climato-sceptiques qui disent oh là là, foutu pour foutu, on s'en fiche, etc. Il y a voilà. Et donc c'est vraiment intéressant.
T'as publié il y a un an En avant. Un des trucs qui m'a interpellé là-dedans, c'est une notion, la notion d'optimisme. Et c'est quelque chose aussi à l'APM. Ici, j'ai reçu Philippe Gabillier, qui est un grand optimiste. Il était président longtemps de la Ligue des optimistes de France. Je ne sais pas si tu connais Philippe.
Oui.
Alors, est-ce que tu peux nous raconter en quoi, finalement, et on va finir sur cette touche-là, l'optimisme, c'est un état et puis peut-être une direction qui peut changer les choses en profondeur?
En fait, c'est surtout que je suis convaincu que si le nouveau monde, le nouveau paradigme nous est imposé par des gens qui sont en colère, qui sont vénères, qui sont qui sont pas entraînants, qui sont pas enthousiasmants, en fait, c'est un monde noir qui va arriver. Et je crois qu'il faut absolument mettre de l'enthousiasme dans tout ça. Parce que c'est la seule manière de convaincre, enfin d'embarquer les gens et de proposer un futur plus désirable. C'est surtout ça, en fait. C'est l'optimisme, c'est de dire allez, on va y aller. Et en fait, le sous-titre du livre, donc le livre s'appelle En avant, mais le sous-titre c'est l'optimisme pour cap. C'est-à-dire que je suis bien conscient qu'être optimiste aujourd'hui, ça tombe pas sous le sens. Hein. On ouvre le journal le matin, on n'a pas de quoi vraiment être optimiste. Et donc, c'est une construction. Et c'est une construction sur soi. C'est-à-dire qu'il faut d'abord passer par un état, vous connaissez les 7 étapes du deuil, mais à partir du moment où on prend conscience de l'urgence et du côté catastrophique de la situation, on peut être dans le déni, on peut être en colère, voilà. Mais il faut passer ces étapes-là pour réussir à être optimiste sur ce qui reste, en fait, sur l'amour, sur la beauté du monde, sur toutes ces choses-là. Et donc, une fois qu'on est optimiste, eh ben, on est en capacité d'embarquer des gens et proposer des solutions, car elles existent. Elles existent, mais encore une fois, que ce soit les éoliennes, l'arrêt de la viande ou des trucs comme ça, si c'est défendu par des gens hargneux, qui donnent pas envie, qui font peur, ça marchera pas. Donc voilà, donc pour moi c'est ça, c'est l'optimisme, c'est déjà un travail en soi et c'est un chemin. Et une fois qu'on est optimiste, on peut peut-être essayer de faire de vendre quelque chose entre guillemets de plus beau à ceux qui se posent des questions, quoi.
Maxime, un grand merci pour cet échange. L'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse, à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent et qui ont envie de faire un pas concret dans la gestion plus respectueuse de l'environnement à travers leur entreprise?
En fait, moi, j'ai remarqué qu'un des problèmes de notre société, c'est qu'on compte mal. Parce qu'on compte pas vraiment ce qui compte. Vous voyez, quand je prends l'exemple de toujours, mais un super tanker qui s'écrase sur nos côtes, il y a du pétrole qui se répand, il faut nettoyer le pétrole, il faut démanteler le bateau, il y a des assurances, il faut reconstruire un bateau, le réaffréter. Bref, ça fait de la croissance. Enfin, ça fait du PIB et ça fait donc de la croissance. Et donc, une marée noire, c'est bien pour le pays puisque ça fait de la croissance. Et donc, tant qu'on a que cette boussole financière, on va dans le mur. Et donc, nous, ce qu'on essaie de vendre à l'État, c'est d'adopter la comptabilité en triple capital, c'est-à-dire en plus du capital financier, compter le capital naturel et le capital humain. Donc, regarder un petit peu comment ça évolue et indexer les impôts des entreprises sur cette triple comptabilité. Or, l'État va pas le mettre en place tout de suite. Ce qu'en revanche, on peut commencer à faire quand on est un chef d'entreprise, c'est soi-même de l'adopter. Et donc, moi, ce que j'invite à les patrons à faire, enfin, les chefs d'entreprise à faire, c'est d'essayer de compter ce qui compte vraiment dans le cadre de leur activité. Et donc, faire une comptabilité intégrale et donc rajouter le capital naturel et le capital humain dans le compte de résultat, dans le bilan comptable. Alors bien sûr, ce sera que à titre indicatif et informatif pour eux au départ, mais ils peuvent se donner comme ça une feuille de route et voilà, avec ces deux prismes en plus, généralement on arrive à faire des choses plus vertueuses. Il y a aucune obligation. Il y a d'ailleurs il y a quelques chefs d'entreprise de l'APM qui ont commencé à faire ça là il y a deux trois ans et c'est vraiment intéressant. Et donc voilà, moi je objectiver ce que vous faites vraiment. Objectiver, ça veut dire regarder vraiment les chiffres dont on parle. Est-ce que globalement votre activité est terrible pour la planète, toxique pour la planète, ou est-ce que globalement elle régénère les écosystèmes? Et d'après moi, dans 10 ans, les activités qui régénèrent pas les écosystèmes n'auront plus lieu d'être.
Merci beaucoup Maxime. Merci. Et je te dis à bientôt.
Merci à vous. À bientôt.